Mali, toutes les voix du Mali. Chifina, donc tu vas rouvrir ta flèche, les trucs des jeunes.
17h dans la cité des Trois Caïmans, chers amis jeunes, merci une fois de plus pour la confiance renouvelée au programme de Studio Tamani. On est dimanche et c'est l'heure de votre émission préférée, l'émission qui vous met à la page de l'actualité vous concernant, des informations 100% jeunes, présentées aujourd'hui par moi, Lala Diarra Touré et la belle Aissata Diarra. Alors la plus belle, comment vas-tu?
Je tiens le bout comme toi apparemment, hein?
Ah, super! Tu nous amènes quoi aujourd'hui?
Là, des ateliers de couture ne désemplissent pas à quelques jours de la fête d'Eid el-Fitr. Alors, avec le délestage, que font les tailleurs pour éviter des problèmes avec les clients? On en parle dans cette édition. Il sera également question des arnaqueurs qui s'attaquent à des personnes influentes sur les réseaux sociaux pour leur soutirer de l'argent. On suivra le reportage de Issa Omar Tougoula. Qui sont les fondateurs de Kita? La réponse dans la page histoire et on va clore avec la page sport.
Tu l'as dit dans le sommaire, Aïcha, nous sommes à quelques jours de la fête d'Eid el-Fitr et les ateliers de couture ne désemplissent pas.
En ce moment, là, le tailleur semble bien se frotter les mains malgré quelques contraintes. Toutefois, beaucoup d'entre eux limitent leurs commandes pour éviter des problèmes avec les clients.
Moussa Malé Sissoko a fait un tour dans quelques ateliers de la place, suivant son reportage.
À moins de 2 semaines de la fête, certains couturiers ne prennent plus de commandes. D'autres continuent de recevoir les habits de leurs clients. Ladi Kanouté et Awakone travaillent d'arrache-pied pour satisfaire leurs clients avant la fête, malgré les délestages.
J'ai commencé à coudre les habits de fête avant le mois de juin. Je ne prends plus des habits d'un client. Je m'occupe exceptionnellement de certains qui m'ont prévenu à l'avance. Sinon, je suis débordée. Avec les délestages, je souhaite finir à temps afin de satisfaire mes clients. Je continue de recevoir des commandes car certains clients sont en retard faute d'argent. Mon équipe et moi ferons tout pour satisfaire nos clients.
Du côté des clients, on estime que les prix des coutures sont très élevés cette année.
Les prix de la couture ont augmenté. Les couturiers sont chers. Ils évoquent les coupures d'électricité. Actuellement, un complet coûte 12 500 francs CFA.
À l'occasion des fêtes, entre clients et couturiers, ce n'est jamais sans histoire. Même débordés par les demandes, certains tailleurs ne se privent jamais de prendre les habits des clients.
Chers amis jeunes, vos avis et suggestions nous intéressent. Vous pouvez nous les faire parvenir via notre page Facebook ou notre compte X, anciennement appelé Twitter. Autre actualité, Lala, dans la ville de Mopti et Sévaré, on assiste à des assassinats ciblés ces derniers temps. Les derniers cas remontent à la nuit du 26 au 27 mars 2024.
Et oui, malheureusement, ma chacha, le responsable du centre de la protection civile de Mopti a été tué par des individus armés non identifiés à son domicile à Sévaré. Deux policiers aussi ont été tués le lundi 25 mars dernier.
La multiplication de ces attaques ciblées inquiète les jeunes de la région. Ils demandent aux autorités de prendre plus de mesures pour la sécurité des personnes et de leurs biens.
Écoutons ces jeunes de Mopti au micro de notre correspondant Mamadou Komina.
Aujourd'hui à Mopti, même dans ta propre maison, tu as peur. Ils vont te tuer sur place et ils vont fuir. Vraiment, on souffre. Et on fait l'appel aux autorités pour qu'ils puissent nous aider.
À cause de cela est dû à l'insécurité et au délestage. C'est pourquoi ces bandits sont capables d'aller te tuer juste dans ta maison. Et cela a beaucoup d'impact sur nous les jeunes.
Il y a beaucoup de jeunes sans emploi qui n'arrivent plus à mener leurs activités à cause de l'insécurité et cela est inquiétant. Nous demandons à nos autorités de trouver une solution, sinon la population de Mopti a beaucoup souffert.
Si 20 heures tu trouves dehors, ta vie est en danger. Nous sommes très inquiets. Même pendant la journée, les tueries se font.
Dis-moi ma belle, as-tu déjà entendu parler des fantômes sur les réseaux sociaux?
Non, pas vraiment. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, il s'agit des profils dont les propriétaires sont méconnus du grand public. Ces personnes s'attaquent en général à des personnes influentes ou riches pour les intimider ou leur soutirer de l'argent.
Ah, je vois maintenant. Ces pratiques peuvent avoir de nombreuses conséquences selon des jeunes qui demandent à ce qu'il y ait une lutte implacable contre le phénomène.
Nous en savons plus avec Issa Oumar Touroula dans ce reportage.
Ils sont de plus en plus nombreux, les profils fantômes qui s'attaquent aux gens sur les réseaux sociaux. Intimidation ou encore du chantage, ces personnes utilisent différents moyens pour atteindre leurs objectifs, des pratiques que ces jeunes dénoncent.
C'est quelque chose qui est très grave.
Il faut que la gouvernement prenne une précaution, c'est-à-dire pour sanctionner les gens qui font ça, qui partagent leurs informations.
Les gens peuvent nous envier sur les réseaux sociaux à travers ce que nous publions. Donc, ils peuvent se baser sur ça et vouloir te faire du mal.
Quand tu veux prendre une puce, donc la puce sera identifiée à ton nom. Je pense que les détenteurs de ces réseaux sociaux, ils peuvent faire la même chose.
Amadoune Sankaré, ingénieur en informatique, conseille aux internautes d'être prudents car la détresse psychologique provoquée par ces pratiques peut conduire à la dépression, l'anxiété, voire au suicide.
Limiter la quantité d'informations personnelles divulguées en ligne et ajuster les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Il serait bien aussi d'avoir le développement de technologies de détection et de prévention des attaques en ligne, telles que l'intelligence artificielle et la cybersécurité avancée.
En plus de cela, il propose qu'il y ait une sensibilisation et une éducation du public aux bonnes pratiques en matière de sécurité en ligne, mais aussi une bonne collaboration internationale dans la lutte contre la cybercriminalité.
Dans la même veine, Aïcha, la corruption est devenue une pratique courante au Mali depuis des années. Mais pour beaucoup de jeunes, les nouvelles technologies peuvent contribuer à lutter contre le phénomène.
Oui, là, des blogueurs soutiennent cette idée. Pour eux, les réseaux sociaux susceptibles d'atteindre le maximum de personnes peuvent être utiles dans la lutte contre la corruption.
Mais comment? Koumafi Keïta nous donne la réponse dans ce reportage.
Bina Keïta est blogueur et il est suivi par de nombreuses personnes. Il s'est donné comme mission la dénonciation de la mauvaise gouvernance. Il donne quelques astuces pour lutter contre ces phénomènes.
De demander aux populations de ne pas payer là où on ne doit pas payer. De faire en sorte qu'il y ait une quittance après paiement. Les services indiqués commençaient à donner des cartes à 10 000, 20 000 et même 30 000. À travers ce message, le ministre tutelle a compris que quelque chose se passe au niveau de son service.
Dans la capitale malienne, le jeune affirme que la corruption a atteint une proportion inquiétante. Il pense qu'il faut renforcer la sensibilisation.
Nous devons sensibiliser les gens à travers les médias, tout en parlant beaucoup sur les effets néfastes de la corruption.
Les jeunes d'aujourd'hui, on a tendance à voir les choses comme si on ne fait pas la corruption, rien ne peut s'arranger.
Le numérique, quand même, ça doit jouer un rôle très important. Au Mali, on a l'intention que c'est même dans le sang. C'est les gens veulent avoir du gain facile.
On tend vers la numérisation des choses. On doit essayer de miser sur l'éducation civique.
Les blogueurs invitent les autorités du pays à mettre à contribution les réseaux sociaux pour sensibiliser la population sur les effets néfastes de la corruption et leur permettre de dénoncer les faits.
Place à présent au Minimag de la semaine. Et aujourd'hui, le Minimag s'intéresse à l'incivisme des motocyclistes dans la circulation à Bamako.
Eh oui, Malali, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout sur les ponts.
Certains usagers circulent de façon anarchique, provoquant souvent des accidents. Face à la situation, des usagers invitent la police à prendre des dispositions pour mettre fin au phénomène.
C'est tout Kanté pour le reportage.
Nous sommes sur le troisième pont de Bamako à Missabougou. Sur cette voie, il y a un passage dédié aux motocyclistes. Mais celui-ci n'est pas totalement emprunté par ces derniers. Certains parmi eux préfèrent la voie principale des automobilistes. Cette situation crée des désagréments chez certains, voire des accidents.
C'est tellement désagréable. Chaque fois, ils sont là à se mêler aux voitures. Chaque fois, il faut toujours avoir les pieds sur le frein.
C'est vraiment ennuyant. Ça cause des soucis, surtout pour nous les automobilistes. La moto peut tomber en panne à tout moment. Ils roulent sans mesure de sécurité.
De leur côté, certains motocyclistes expliquent que leur voie est un peu petite. D'autres aussi sont conscients du danger qu'ils encourent.
Personnellement, je ne roule pas sur la voie principale, qu'il y ait ou pas d'embouteillage. Je respecte toujours les codes de la route.
Certains disent que la vignette qui coûte 12 000 francs te permet de rouler sur cette voie.
Des fois, je prends la voie des véhicules si je suis pressé. Parce que la voie des motocyclistes, c'est trop petit pour contenir toutes les motos.
Des usagers demandent à chacun de respecter le code de la route. Ils interpellent aussi les autorités à prendre des mesures idoines contre le phénomène.
Dans la rubrique Portrait du jour, Aïcha, nous allons parler d'un jeune graffeur.
Il s'appelle Alou Damélé dit Zofra. Il réside dans un quartier de la commune 1 du district de Bamako. Selon Zofra, avant d'être graffeur auprès des professionnels de cet art, il avait déjà un don naturel en matière de dessin.
Aujourd'hui, Zofra gagne sa vie grâce à ce métier. Il estime par ailleurs que cet art est en train de perdre sa valeur d'antan.
Ousmane Nalibouli était à sa rencontre, suivant son reportage.
En 2007, après plusieurs tentatives sans succès, à l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF, Alou Dambélé, dit Zofra, s'est reconverti dans le métier de graffeur, un domaine dont il avait déjà quelques notions.
Dessiner est un don naturel pour moi. Même si je vois une feuille d'arbre, j'essaie de faire son dessin. C'est comme ça que je suis devenu un dessinateur. J'ai fait le DEF plusieurs fois sans succès. Je me suis dit que je ne peux pas réussir dans les études. Alors j'ai opté pour les graphismes. Il est devenu ma passion et mon métier.
Zofra vit aujourd'hui de ses métiers. Il parvient à subvenir à ses besoins, mais comme tout métier, il déplore quelques difficultés.
Grâce à ce métier, je me suis marié. J'arrive à faire face aux dépenses de ma famille. C'est avec plaisir que j'exerce ce métier. Quand tu refuses un montant avec un client, un autre peut le prendre, même s'il ne peut pas faire le travail mieux que toi. De nos jours, les gens apprécient plus les autocollants que les graffitis faits à la main. C'est ce qui dévalorise le métier.
Le temps, c'est de l'argent. Et pour Alou Dambélé, il faut savoir en profiter.
Ainsi s'ouvre la page histoire, cher ami jeune, et c'est au XIIe siècle qu'Ekita, dont le premier nom était Guenoukourou avant la colonisation, a été fondée par les Tunkara et les Kamara.
C'est ce que nous révèle dans notre page histoire les autorités traditionnelles de la localité. Mais pour plus de détails, écoutons Nyame Tunkara, chef de quartier de Tunkarala, au micro de notre correspondant Fode Moussa Diakité.
Les Tunkara et les Kamara sont les premiers fondateurs de Kita. Les Tunkara sont des Sarakolais qui ont gouverné l'Empire du Ghana pendant 1000 ans. Et les Kamara sont des Malinké. Les Keita sont des étrangers des Tunkara et Kamara. Le premier Keita qui est venu, c'est Nyamran. Après Nyamran, il a été suivi par son frère Kasuma. En un mot, Kita a été fondé au XIIe siècle. D'ailleurs, le premier nom de Kita, c'est Guenoukourou.
À présent, ma belle, on passe au sport. Les quarts de finale de la 63e édition de la Coupe du Mali ont débuté cette semaine, Machacha.
Oui, le jeudi dernier, Djoliba Assé s'est largement imposé par 4-0 face à US Bougouni. Le même jour, Afé a battu Usfas par 1-0.
Et la suite de ces quarts de finale?
Demain lundi, 1er avril 2024, AS Real de Bamako sera face à AS Bakaridjan de Ségou à 16h. La rencontre stade malien contre AS Korofina a été reporté à une date ultérieure.
Et voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait donc retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était une présentation de Lala Diarra Touré et la belle Aïssata Diarra dite Chacha. Merci ma Chacha pour ta compagnie.
Merci également à toi ma belle.
Vous n'avez pas pu suivre cette émission en intégralité? Eh bien, pas de panique, elle est disponible sur toutes les plateformes sociales de Studio Tamani ou sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas la version Bamalankan, c'est juste après ça.